C'est chaud d'idée pour la version de l'âme de Moshe Benjamila, Zechat Tzadik Livracha. Petit briefing des jours qui vont venir maintenant. Mardi matin, si je ne me trompe pas, c'est Rosh Chodesh Nissan. On fait la prière, normal, Shachrit Moussaf. Après, c'est bien le plus tôt possible. Pourquoi le plus tôt possible? Parce qu'on est en retard dans la saison. Vu qu'il y a eu une année de 13 mois lunaire, on est en fait en retard par rapport au calendrier solaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? C'est le printemps. Et dans le printemps, les arbres fruitiers donnent des fleurs. Et c'est très beau. Ici, à l'entrée de la yeshiva, quand vous montez les escaliers, il y a à droite un abricotier, à gauche, un peu dans la fosse là-bas, il y a un citronnier. Les deux ont des fleurs. Donc vous finissez la prière mardi matin, vous descendez en bas, et on fait une bénédiction qu'on fait une fois par année, qui s'appelle Birkat Ha'Ilanot. Il y a des textes à lire avant, des textes à lire après, mais sans cesse de faire cette bénédiction. Si on est 10, c'est mieux pour le faire. Il ne faut pas attendre, on peut le faire durant tout le mois de Nissan, mais dans quelques jours, il n'y aura plus de pétales, il n'y aura plus de fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, même pas une, fini, on ne peut pas faire on peut plus faire la bénédiction. Pardon ? Pas. Non, non, pas le bourgeon du fruit, le bourgeon de la fleur. La fleur ou le bourgeon de la fleur ? D'accord, ça va, mais pas le fruit lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un bourgeon, après tu as une fleur, après la fleur elle tombe, et il reste un petit truc minuscule qui sera le fruit lui-même. Ça, ça ne va pas, ce petit truc minuscule, c'est trop tard. Une fois qu'il y a le fruit, c'est trop tard. Il faut qu'il y ait la fleur avec ses pétales. D'accord? Si possible, deux arbres, si possible, deux arbres de types différents. On voit les deux, tac, on fait la bénédiction. Est-ce qu'on peut la faire Shabbat? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Voilà, ça c'est la première mitzvah à faire. Ensuite, il est bien, après la prière, de lire, pendant les 12 premiers jours de Nissan, un texte relatif, tous les jours c'est un autre texte, au président des 12 tribus qui a mené un sacrifice lors de l'inauguration du temple. Le temple, le sanctuaire dans le désert, a été inauguré le premier Nissan. Et chaque jour, il y avait un autre président de tribu qui a mené un sacrifice. C'est bien de lire cela. Le premier, c'est Narchon Ben Aminadav de Yehuda. Et après, comme ça. Il y a des prières aussi à rajouter après, vous lisez si vous voulez, vous lisez pas si vous voulez pas, c'est bien, mais c'est quelques bonnes pages de texte comme ça de prière. Ensuite, aider les parents dans le nettoyage de Pessah sans faire la grimace. Le nettoyage de Pessah, c'est difficile, c'est très difficile. Il ne faut pas rentrer en colère, et il faut faire attention aussi de ne pas s'empoisonner. Parce que on est dans la cuisine, il y a des détergents, il y a une bière, et tu veux une bière, tu bois des détergents à la place, d'accord? Il y a beaucoup de cas d'empoisonnement et beaucoup de cas de femmes qui font des fausses couches ou un accouchement prématuré. Parce qu'elles bossent, elles bossent, elles bossent, elles bossent, le gosse, il ne tient pas le coup, et hop, elle va aller accoucher. D'accord? C'est clair qu'il y a, on voit dans les statistiques, ça monte de façon spectaculaire. Donc faire tout suffisamment tôt comme il faut bien. Si je me souviens bien, Pessah, ça sera lundi soir. En attendant, il semblerait qu'il y ait un programme très chargé géopolitique qui va arriver dans le monde. On verra. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Mais ça se peut tout à fait. En tout cas, il faut déjà commander maintenant les matzot. Et des matzot le plus cachères possible. Pour le soir de Pessah, il faut des matzot qui soient faites à la main, pas en machine. C'est valable aussi, mais c'est beaucoup moins bien. Il y en a qui disent qu'on n'est pas rendu quitte. Donc, si possible, des matzot à la main, et prenez des matzot avec un bon hercher, pas les trucs classiques français. Il y a beaucoup de bruit qui court, que ce n'est pas trop génial. D'accord? Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, je ne vais pas me faire attaquer aussi pour diffamation, mais un bon hercher, c'est toujours bien. D'accord? Une bonne cache-route, au moins pour Pessah. Bon, il faut nettoyer toute la maison. Il faut savoir qu'il y a deux interdictions. Une interdiction de posséder du hametz, une interdiction de consommer du hametz. Elles n'ont rien à voir. Consommer, c'est même un milligramme de millimètre tout petit. On mange, c'est comme c'est l'interdit de la Torah. Et si on a mangé une quantité de kazaït, c'est un cube de 3 cm de côté, c'est karet, retranchement de l'âme, très grave. Il y a un autre interdit qui n'a aucun karet, c'est de posséder du hametz. C'est seulement une quantité de kazaït. Si j'ai beaucoup de miettes par terre le soir de Pessah, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas très l'ambiance de Pessah. Il faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas en tout, dans toutes les miettes, la quantité, la maison les réunit en une quantité de kazaï. Kazaï, je répète, c'est un volume d'un cube de 3 cm de côté, 27 cici ou 27 millilitres, d'accord? S'il y a comme ça cette quantité de miettes dans toute la maison, ça se réunit, et là, on transgresse interdit de posséder du hametz. Mais sinon, ce n'est pas interdit. C'est interdit d'avoir cette quantité-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le hametz qu'on veut garder? Quelqu'un, il a 10 bouteilles de whisky Chivas, d'accord? Old Chivas, qu'est-ce que j'en sais, qui sont dans les tonneaux, 12 ans. Bon, normalement, il faut le jeter à la poubelle, glou, 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 d'accord? Ou donner à un non-juif. Entre parenthèses, on n'a pas le droit de faire un don gratuit à un non-juif. D'accord? Donc, seulement si on a l'intérêt, on leur donnera ça. Alors, depuis quelques années, depuis quelques siècles, il y a une nouvelle méthode qui est rentrée dans le peuple juif, c'est on vend tout le hametz à un goy. Attention, il y en a qui se trompent, ils vendent leur maison au goy, avec tout ce qu'il y a dedans. Mais dans ce cas-là, quand ils reviennent après les vacances, parce qu'aujourd'hui, comme dit le Rav Citruc, Pessah, un temps c'était toute la maison, sans dessus dessous, nettoyage, après on fait à manger, etc. Aujourd'hui, c'est deux signatures. Une, la vente au goy, deux, le chèque de l'hôtel. D'accord? C'est comme ça. C'est une autre préparation de Pessah. Mais ceux qui vendent, en tout cas, ils ne doivent pas vendre la maison. Parce que quand ils reviennent après les vacances à Hammamet ou sur la côte ou en Espagne ou au Maroc, d'accord, ils doivent tremper toute leur vaisselle au mikvé avec bénédiction. Parce qu'un ustensile qui a appartenu à un goy, quand on le récupère, nous, il rentre dans la propriété du juif, il doit être trempé au mikvé avec bénédiction. Même si maintenant, j'ai ici un verre, voilà, et ici j'ai Ahmed, et je lui dis, tiens Ahmed, je te donne ça en cadeau. Ah merci, c'est gentil. Il prend le verre. Il dit, tu sais quoi, allez, je te donne aussi ça en cadeau. Il me le redonne, je dois tremper au mikvé avec bracha. D'accord? Parce que c'est parti de la possession de ça appartenait à un goy, c'est rentré dans mon domaine. Ça m'appartient à moi maintenant. Donc on ne vend pas les ustensiles, on ne vend pas la maison, on vend que le hametz qu'il y a dans la maison. Oui. Non, parce que si maintenant j'achète un ustensile d'un goy qui est neuf, qui n'a jamais été utilisé, il y a l'obligation de la Torah, s'il est en métal de la Torah, s'il est en verre des rabbanan, de le tremper au mikvé. C'est écrit dans la Torah. Lorsque les Juifs sont partis de la guerre de Midian, ils ont eu du butin. Et Pinchas, à la place, Moshe s'est énervé, alors il a oublié la halakhot, il a envoyé Pinchas à la place pour expliquer aux Juifs les lois de tremper au mikvé. Pas cachérisé, il y a aussi cachérisation. Mais aussi tremper au mikvé, c'est deux choses différentes. Un ustensile qui n'a jamais été utilisé pour cuisiner quoi que ce soit, qui appartient à un goy, quand on l'achète, il faut le tremper au mikvé avec bénédiction. S'il est en métal aussi, s'il est en verre. S'il est en métal, c'est de la Torah. S'il est en verre, c'est des rabananes. Le reste, des matériaux, pas besoin. Il y en a qui essaient, on trempe sans bracha. Par exemple, la porcelaine ou des choses comme ça, on n'est pas certain. Si c'est de bois, de fer, de terre, etc., pas besoin de tremper au mikvé. D'accord? Donc si maintenant je vends toute ma vaisselle de hametz au goy, quand je reviens, il faut la tremper au mikvé, c'est casse-pied. Si c'est deux verres et deux assiettes, ça va, mais quand c'est une armoire entière, c'est un peu plus compliqué. Ok. Le soir.
Comment faut faire pour éviter ça, justement?
Faut pas vendre toute la maison avec tout ce qu'il y a dedans, ni la vaisselle, on ne vend que le hametz. Voilà, c'est tout. D'accord? C'est pas compliqué. On vend, voilà, je vends tout le hametz que j'ai dans la maison, le hametz. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait sur Hametz? Alors, pas que tu laisses tout maintenant tes bouteilles de whisky comme ça dans ta chambre, etc. Si tu n'es pas à la maison, tu pars à l'hôtel à Hammamet, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu restes à la maison, tu prends tout le Hametz, tu le mets dans un placard. Alors, M. Mbachou, il dit qu'il faut clouer le placard. Bon, pas tout le monde dit cela. En tout cas, tu fermes la clé, tu mets un panneau dessus. Attention, Hametz vendu au goy. Attention, c'est pas nécessaire. Tu mets Hametz vendu au goy. Voilà, comme ça, personne ne va ouvrir cela pendant Pessah. Il y en a un qui déjà prépare tous les gâteaux pour la Mimouna, et il ne peut pas le mettre dans l'armoire, il faut le mettre dans le congélateur. Alors, est-ce qu'on peut le mettre dans le congélateur? C'est très difficile à autoriser cela. Il faudrait quand même dans un compartiment, puis fermé, hermétique, dans lequel on met dessus Hametz vendu à un goy. On ne peut pas mélanger le Hametz et le non-Hametz en même temps dans le congélateur. Voilà. Le plus simple, si tu le prends, tu donnes ta voisine Christine de la Croix, elle met ça dans son congélateur, merci Christine, et tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Il faut le donner, il faut le vendre. Ou tu le vends, ou tu le donnes. Tu le donnes avec ces signes, voilà, c'est à vous, terminé.
C'est-à-dire, c'est l'envie de taper dedans pendant Pessah?
Oui, absolument. C'est une vente qui est effective, il faut savoir. Le Rav Chazal m'a raconté ça hier. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il m'a raconté qu'il y avait une discussion dans sa jeunesse avec les gens de sa famille, etc. C'est vraiment effectif, etc. Et donc, bien sûr, c'est effectif. Et lui, il est allé voir un voisin, un goy, il lui a dit, écoute, tu vas maintenant. Je crois même qu'il a donné de l'argent. Tu vas aller voir, tu lui demandes, ouais, j'aimerais bien, j'ai acheté votre whisky, j'aimerais bien, j'aimerais ma bouteille de whisky, d'accord? Eh bien, ils étaient tous super étonnés, qu'il quoi, le whisky, machin, mais ils l'ont donné, d'accord, ils l'ont donné. Et il m'a raconté une histoire que quelqu'un, il était marié avec une... Où c'était, dans quelle vie, je ne sais plus. Il y avait une juive qui s'est mariée avec un non-juif, en Afrique du Sud. Et tous les juifs de la ville, ils vendaient le hametz à ce non-juif. Mais ils ne savaient pas qu'il était marié avec une juive. Et elle a commencé à faire tchouva. Elle a dit, il faut qu'on vende le hametz. Écoute, tout le monde me vend le hametz. Tu crois que ça vaut quelque chose, quoi? Tu crois que le whisky qu'ils ont là-bas, il m'appartient? Bien sûr. Eh bien, je vais y aller, tu verras. Eh bien, il a été, et tous les gens à qui il a demandé son whisky, tout ça, ils l'ont donné sans problème. Bien sûr, voilà, prenez-le. Il était tellement épaté de cela, il s'est converti. Alors, je tiens à vous raconter ça. Voilà. Donc, on vend cela à la Rabbanout. Il y a Torah Baksous qui fait cette vente dans tous les pays, etc. Et on arrive lundi soir. Lundi soir, c'est la veille de Pessah. Comment débute le traité Psachim? Or, l'arba asar, bodkim et ha chametz et oraner. La lumière du 14 du mois de Nissan, on vérifie le chametz à lumière de la bougie. La Gemara, sur presque trois pages, va essayer d'expliquer c'est quoi la lumière du 14. Alors, il s'avère qu'en fin de compte, en hébreu, le soir qui est la veille d'un jour, on peut l'appeler or. Par exemple, dans les cartes de mariage, on écrit le mariage aura lieu or du 17 Nissan, d'accord, du 17 mai, d'accord, du 17 Tammuz, d'accord. Or signifie le soir même. On appelle ça lumière pour avoir un langage beau, un langage propre, pas la nuit, on n'aime pas la nuit, on aime la lumière. La Kabbalah, elle va dire, c'est pas comme ça, il y a une lumière extraordinaire qui descend du ciel à ce moment-là, dans le Arba, c'est le 14. La valeur numérique du mot Aïn, c'est œil, c'est aussi la lettre Aïn, 70. 70, c'est 7. 70, 70, 140, d'accord, ça fait 14. Une lumière qui descend dans nos yeux extraordinaire. Quand on va chercher le Hametz, il y a une lumière très très grande qui descend. Et là, il y a un piège très connu et très mauvais. C'est que les gens disent, ça va, ça fait 15 jours qu'on a nettoyé, on a frotté, on a cherché partout le Hametz, il n'y en a plus. Alors ils prennent la bougie, ils font tralalalalalalalala, elle est terminée. 5 minutes. Jamais de la vie. Il y a deux lois. Il y a nettoyer et il y a chercher. Et ce n'est pas la même chose. Et très souvent, moi je peux vous dire que chez nous on nettoie très bien, ben, presque chaque année je trouve du Hametz dans la bouca. Une fois, tu as toutes les bouteilles. C'est propre, on a enlevé les étagères, on a sorti les bouteilles, on a bien nettoyé, on a remis les bouteilles. Et moi je vérifie, bouteille par bouteille, c'est très long. Bouteille de bière, on a laissé une bouteille de bière, elle est propre. Donc les gens qui nettoient ne font pas attention, bouteille, ils enlèvent, ils remettent, voilà, ils ont pas le chametz. Il y a une différence entre chercher le chametz et nettoyer, c'est deux choses. Et des fois, on oublie dans les sacs des enfants, quand ils vont à l'école, tu as un sandwich qui date d'il y a trois semaines, complètement pourri, d'accord. Tout. On peut trouver n'importe quoi et n'importe où. Donc on doit vérifier. Ça prend entre 2 heures et 6 heures. Vérifier une maison. Alors, c'est un studio avec une armoire. Bon, ça prend une demi-heure. Mais une maison normale avec des enfants, tout ça, ça prend entre 2 heures, entre 4 heures, entre 2 heures et 6 heures. Le khatam sofer passait toute la nuit presque à vérifier. Plus tu vérifies mieux, plus tu as la lumière qui descend. Il faut vérifier partout où on met du hametz. Il faut faire ça comme il faut bien. Une fois qu'on a fini, on fait l'annulation du Hametz. C'est un texte qu'on dit en araméen, mais il faut comprendre ce qu'on dit. Si on ne comprend pas, il faut lire en français. Tout le vin que je n'ai pas vu, qu'il soit annulé, est considéré comme la poussière de la terre. On répète ça 3 fois. C'est une histoire de la Torah, d'annuler le Hametz. Le lendemain matin, oui.
Si jamais
on n'est pas chez soi, on le fait aussi. Alors, soit le maître de maison le fait. Soit tu l'accompagnes, il peut faire la bénédiction, toi tu l'accompagnes pour aller vérifier aussi avec lui. On vérifie la voiture aussi, le bureau, et tout, il faut tout vérifier, tout ce qui nous appartient. Où on vend? Nici à l'Eshiva, mon bureau, on le vend. D'accord? Comme ça, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier. Mais ce qu'on ne vend pas au goy, il faut vérifier. L'armoire dans laquelle tu as mis le hametz et le whisky, ça, pas besoin de vérifier. Parce qu'on sait qu'il y a le hametz, mais tu as mis un panneau dessus. Hametz vendu au goy, d'accord? On garde le hametz pour ceux qui veulent pour le lendemain matin. on met de côté, maintenant on doit faire attention. Pas que tu as mis la Gemara, elle a une page entière, on a mis 10 paquets, il n'y avait plus que 9 paquets, on avait une souris qui est rentrée, elle est rentrée là. Des histoires de souris et de rats avec du hametz dans la bouche, c'est une page entière comme ça dans traité Psachim. Donc faire attention que la même quantité de hametz qu'on a ici, on l'a gardée. Et après, on va brûler le hametz. Attention, il y en a qui brûlent le hametz trop tard. Il y a une heure limite. Il faut regarder en calendrier dans chaque pays dans lequel on est. Une fois, on m'a invité, ça fait 40 ans que je n'ai pas passé Pessah hors de chez moi, sauf une fois, l'année 2000, on dit, pour ça que je dis toujours Hamamet, parce que c'est toujours le truc qui me revient, on a fait notre organisme a été organisé un Pessah à Hamamet. Ils m'ont invité, moi-même, le Rabbin Chitrit aussi, on était là-bas. Alors moi, je vais le matin, tout ça, voilà, je prépare le feu, tac, et je brûle. Puis tu vois des gens pépères à midi, à une heure, ils viennent avec le Hamas, mais Habibi, c'est déjà... C'est trop tard. Dès le midi juif, de la veille de Pessah, ça interdit la Torah de posséder du Hamas. C'est plus rien de le brûler maintenant. Il faut le brûler même une heure avant ce moment-là. Donc il faut vérifier l'heure exactement dans les calendriers, dans le pays dans lequel on est, et aller brûler le Hametz auparavant. C'est bien, pas obligatoire, mais c'est bien, quand on recherche le Hametz, de mettre 10 petits morceaux de pain cachés dans la maison, et on les trouve. D'accord, avec la bougie, tu les trouves. Alors, il ne faut pas les mettre comme ça, parce qu'il y aura des miettes partout, c'est terrible. Donc on les entoure d'un papier aluminium ou de papier, etc. Et il faut surtout que la maîtresse de maison, quelqu'un d'autre qui va les mettre, qui va les cacher, elle note. Ça arrive très souvent qu'on n'en trouve plus que 9. Il manque un dixième. On est bien embêté. Après qu'on a tellement fait pour qu'il n'y ait pas de ramesse, on est certain qu'il y a un ramesse qui se balade dans la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va l'annuler. L'annulation, c'est valable. Mais aussi, il faut faire attention, si possible, donc on met des petits morceaux de ramesse qui font moins de kazaït. Parce qu'on avait dit que l'intéressant de la Torah, c'est de posséder plus que kazaït et plus. Un cube de 3 cm de côté. Donc on va faire des petits morceaux de pain, petits. Si on trouve pendant Pessah, à la seconde, dans les toilettes, pas dans la poubelle. La poubelle, c'est à toi. La poubelle, c'est toi. Il n'y a aucune différence entre ton buffet, ta cuisine et ta poubelle. C'est tout ton domaine. Dans les toilettes, tu tires la chasse d'eau. D'accord? Même pendant, maintenant, si c'est pendant la fête, c'est mouxé le hametz. Donc il faut le prendre comme ça. C'est pas, le mouxé, on peut le prendre différemment. Tac, tu mets dans les toilettes, tu tires la chasse d'eau. Pourquoi? Tu n'auras pas ton conseil d'interdit. Pourquoi? Parce que tu as fait l'annulation. Tu as annulé tout le hametz que tu avais. Donc c'est annulé. Mais on a peur que tu vas en manger un peu. Alors dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser complètement du hametz. C'est des conseils de mettre les petits morceaux de pain dans du papier aluminium. Parce que quand tu vas mettre ça dans le feu, l'aluminium va empêcher que le pain. Il brûle. Il va juste chauffer, il sera très bon. Au contraire, ça a une bonne odeur chez nous, dans mon quartier, vous verrez ici aussi ceux qui restent, d'accord, il y a des feux partout avec le hametz. Tu rentres dans Pessah, tu sens le pain, tu sens des toasts partout, l'odeur du toast, d'accord. Parce que, alors, ce qu'il faut, c'est que ça brûle, pas que ça toaste, d'accord. Donc, et si tu vas commencer à ouvrir chacun des petits morceaux de papier aluminium, c'est super casse-pied. Donc, dans du papier, c'est mieux, comme ça, des petits morceaux de papier. Et le lendemain, on va brûler cela. Et une fois que c'est brûlé, attention. Il y en a qui mettent de l'essence sur le feu, ça ne va pas. Tu peux mettre l'essence sur le feu, sur le bois, mais pas sur le hametz, parce que c'est bien de l'annuler par le feu. Tu peux l'annuler aussi par l'essence, mais ça, c'est si tu n'as pas le choix. Comme je te dis, on met au mieux de Pessah, la Gemara dit, si tu trouves au mieux de Pessah, tu le jettes au feu. Mais nous, on n'a pas. Dans chaque maison, à l'époque, il y avait une cheminée. Donc, jeter une cheminée et la cheminée, mais nous, on n'a pas ça. Donc, tu le jettes dans les toilettes. Donc, on peut annuler autrement que par le feu, avec de l'essence ou autre chose, mais c'est mieux par le feu. Donc, tu mets l'essence sur le feu, et après tu mets dessus le hametz, et il est brûlé par le feu, pas par l'essence. D'accord? Le hametz n'est pas annulé par l'essence. Une fois que tu es certain que le hametz, il est tout noir, il est déjà roussi, alors tu fais de nouveau l'annulation. Là, c'est total. Entre le hametz que tu as vu, le hametz que tu n'as pas vu, le soir, on a fait une manche qu'on n'a pas vue. C'est ça qu'on a annulé. Mais il y a une partie qu'on voit, celle qu'on va manger demain matin pour le petit déjeuner. Donc, on ne veut pas annuler ça encore. Lendemain, on annule tout. Il faut le faire suffisamment tôt d'après le calendrier. D'accord? Comme j'ai dit, on fait l'annulation, c'est une sorte de la Torah d'annulation du Hametz. À ce moment, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. On est le Yud Dalet, on est le 14. Le 14 du mois de Nissan, on a un verset dans la Torah qui Yad al-Kessia milchama l'Adonai barmalek midor dor. Dieu dit à Dieu jure, en levant sa main sur son trône, qu'il va anéantir. Il va faire la guerre avec Amalek pour toutes les générations. Le Zohar HaKadosh, il dit que cet anéantissement de Amalek sera le 14 du mois de Nissan. Et comment commence ce verset? Qui Yad al-Kessia, la main de Dieu, elle est levée sur son trône pour jurer. La main, c'est Yad, c'est 14 en valeur numérique. Donc quand on fait l'annulation comme ça, il y a une prière aussi du Ben Ishraï, on annule comme ça toutes les forces du mal, et patatra, terminé, on va aller mettre les habits pour recevoir ma chère Bezrat Hashem, s'il ne sera pas déjà là avant. Une fois qu'on a brûlé le Hametz, on a fait l'annulation, alors il y a un programme très chargé. Il faut préparer la table pour le Seder. On sort les plus beaux ustensiles qu'on a. C'est bien d'avoir, de s'asseoir, pas comme ça, mais de s'asseoir sur, si on peut, sur des lits, sur des coussins, il faut, il y a la mitzvah essentielle du soir de Pessah, c'est manger la matzah. Il faut la manger couchée, penchée, au moins 45 degrés. J'ai vu des vidéos qu'il y a sur Internet et j'ai écrit aux gens qui ont publié sur leur texte, c'est faux, d'accord ? Une vidéo sur un site très connu, on voit là-bas un rabbin, fils d'un grand rabbin qui est en Israël, et ils font un seder, d'accord ? Et ils mangent un matzah, ils font comme ça. D'après beaucoup d'avis, ça vaut rien. Rien. On doit être comme si on est libéré, comme du temps des Romains, comme ils mangeaient comme ça sur des meubles, des sofas, des canapés, comme ça, c'est quoi comme ça ? Ça vaut rien du tout. Il faut se coucher au moins 45 degrés. C'est pas ça. Et pas comme ça dans l'air. C'est quoi manger comme ça dans l'air ? Là, je suis 45 degrés, mais je suis dans les airs. C'est pas comme ça. Alors, il faut mettre une autre chose à côté de soi. Ou tu t'accoudes sur les genoux du type qui est à côté de toi, ou, regardez comment on fait, on prend la table, on prend la chaise sur laquelle je suis là, regardez, je la mets un peu comme ça de côté, je mets ma fesse gauche sur l'angle droit de la chaise. Vous me suivez ? Ma fesse gauche sur l'angle droit. Et je mets mon coude ici sur l'angle gauche de la chaise, pas comme ça en arrière, pas comme ça en avant, de côté, voilà, comme ça, comme je suis là, c'est bon, c'est 45 degrés. Et là, tu manges la matzah et tu bois le verre de vin. Si tu n'as pas fait comme ça, tu n'es pas rendu quitte d'après la majorité des poskim. D'accord ? Faire attention à cela. Ensuite, prépare bien la table avec le plateau. Le plateau correspond aux 10 sphères. On a fait un cours dernièrement sur le sujet. Et il y a des choses à faire aussi depuis le moment qu'on a brûlé le Hametz jusqu'au soir. Elo Mikveh, il y a une lumière très très grande qui vient du ciel. C'est bien d'Elo Mikveh avant Pessah. Et il y a la lecture du secret du Rav Shimshon Estropolai. Rav Shimshon Estropolai, c'est un grand, un peu plus kabbaliste, qui vivait il y a 400 ans. Et il a écrit un secret sur l'Agada qui est doux comme le paradis, extraordinaire. Qu'il est bien, il y a une promesse que celui qui lit ce secret-là la veille de Pessah, il ne mourra pas toute l'année, tout ira bien durant toute l'année. C'est un plaisir à lire cela, on le lit. C'est bien aussi de lire le Korban Pessah, donc dans deux Haggadot normales, Sfarad surtout, ils mettent le secret du Rav Shimshon Estropolai, et ils mettent aussi le Korban Pessah. Lire, parce qu'à ce moment-là, le 14 du mois, le 15, le soir de Pessah, on mangeait le sacrifice pascal. On le faisait en Michoui, on le mangeait. Mais il fallait auparavant aller au temple, l'égorger, asperger le sang, mais tout un cérémonial. On lit tout cela dans la Torah, la Torah est dans un texte qui raconte, le texte de la Torah qui le raconte, et les Mishnayot sur le sujet. C'est bien ceux qui peuvent aussi dans les Haggadot, Sarah David, ils mettent aussi un secret de Kabbalah. On voit là-bas les 42 différentes stations du peuple juif dans le désert. Ça correspond aussi à des choses kabbalistiques qui ont eu à ce moment-là. Et on prépare des beaux chidushim, des belles explications sur le soir de la Haggadah de Pessah. D'accord ? Maintenant, les fils aînés doivent jeûner normalement ce jour-là. C'est dur de jeûner parce qu'après le soir, il faut boire deux verres de vin à sec. D'accord ? D'un coup. Et faire Nagada et tenir bon après, il y a encore deux verres de vin aussi après le repas. Et tenir bon, si possible, rester réveillé toute la nuit en parlant de la sortie d'Égypte. Moi, j'ai jamais réussi. Mes gendres, ils ont réussi. D'accord ? Moi, je bois du vrai vin. Il y en a qui boivent du jus de raisin. C'est une blague, parce que les Chazal ont dit du vin. Pourquoi ? Pour être heureux, pour être comme un... Mais celui qui sait qu'il va boire le vin, il ne tient plus la route alors qu'il boit du jus de raisin. Attention. Pas tous les jus de raisin, même avec un bon hercher, sont cachers. En Israël, il y a trois herchers. Je me souviens bien, c'est Beth Yosef, Rubin, et encore un que j'ai oublié. D'autres, ils mélangent de l'eau, après ils mettent du sucre. Et c'est un problème. Il faut que ce soit du jus d'orange sans sucre. Du jus de raisin sans sucre. Il y a un de Kedem qui est très bon aussi, je crois que c'est celui qu'on utilise chez nous à la maison. Mais il faut marquer no sugar, sans sucre. S'il y a du sucre, beaucoup de poskim, c'est plus du jus de raisin, c'est de l'eau sucrée. D'accord ? J'explique en deux mots, parce que dès qu'on met plus de 10% d'eau dans du jus de raisin, il n'a plus le goût du jus de raisin, donc il n'a plus le statut. Et remettre du sucre, ça redonne le goût du jus de raisin. Mais ce n'est pas à cause du jus de raisin que ça donne le goût, c'est à cause du sucre. Alors ça reste à bracha chez Akol. On a arrêté la mitzvah, on a fait une bracha le batala. Donc préparer des belles explications. Et rester de bonne humeur. Le CDR, c'est un ordre. D'accord ? Une lumière fantastique qui vient, elle essaiera à vous qu'on n'ait pas cette lumière. Le meilleur moyen nous met en colère. C'est facile. T'es en tension, t'es fatigué. Le chapitre des lois du CDR dans Shulchan Aruch, c'est le chapitre Ta'ab. Ta'ab, ça signifie en arabe Ta'aban, fatigué. D'accord ? C'est pas pour rien. Il y a les chapitres, ils ont toujours un sens dans le. Enfin, on est crevé, on n'en peut plus. Il faut tenir bon. Et après, Bezrat Hashem, on aura une fête pleine de lumière. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Maintenant, ce que je dis sont super courts. Il y a beaucoup, beaucoup de cours que j'ai fait sur le site Maïlava. On a fait tout un seder. On a expliqué chaque moment du seder, comment faire la cachérisation des ustensiles, tous les sujets qui sont relatifs à Pessah. Il y a aussi beaucoup de Bourkidushim sur l'Agada. Chaque année, j'en rajoute des nouveaux. Comme ça, allez les consulter. Comme ça, vous arrivez fin prêt pour la fête de Pessah. Pessah Kachar Vesameach avec ma chère Bezrat Hashem.